Quand l'Église parle d'argent, elle en parle sur le registre du délestage, du don, du désencombrement. Pour l'Évangile, l'argent n'a de valeur que s'il est donné par amour. Ce que veut dire là, Luc 16, 13, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et Benoît XVI, dans son message de carême 2008, disait, exactement dans le même esprit, « Nous ne sommes pas propriétaires des biens que nous possédons, nous en sommes administrateurs. » C'est Benoît XVI. Hein? Bon. « Tout ce que je possède est don de Dieu, tout vient de Dieu, y compris ma vie. » Ce qui fait, mais je n'insisterai pas là-dessus, sur cet angle-là, l'unité entre le problème de l'argent et le problème de la bioéthique dont il va être beaucoup question à la rentrée. En réalité, comme dit le pape, tout est lié. Et il ne faut pas choisir. Hein. Le catholicisme ne consiste pas à dire ou bien, il consiste à dire et. Le catholicisme prend tout. Voilà. Alors, on ne peut donc pas s'en tirer si on se pose le problème de l'argent. Bon, les cathos prennent facilement l'esquive vis-à-vis de ce problème-là, parce que c'est le sujet qui fâche. Alors on s'en tire avec des formules qui sonnent bien, mais qui ne mènent pas à grand-chose. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Vous avez tous entendu cette formule. Bon, c'est vrai, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et on risque de passer à côté de trois choses très importante. Un, les propres paroles de Jésus, qui ne parlait pas à la légère. Deux, le rôle de l'argent dans le système économique d'aujourd'hui. Le système économique fait jouer à l'argent un rôle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est sans précédent, hein. On ne vous dise pas que c'est l'ordre normal des choses. C'est une invention de la fin des années 80, du début des années 90, 1990. Le rôle de l'argent aujourd'hui, deuxième point. Et troisième point, notre devoir à tous, à chacun, même si on se dit, comme le système économique, c'est un truc énorme, qu'est-ce que j'y peux? Évidemment, moi tout seul, chacun de vous tout seul, on n'y peut rien. Mais notre devoir est au moins de connaître la critique constructive que l'Église fait de ce que Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François appellent l'idole argent, avec un A majuscule. C'est ça le problème. Et là, on fait le lien entre notre responsabilité individuelle, notre vie quotidienne, et le collectif, le commun, local, national, universel, etc. Alors, les paroles de Jésus, on les connaît tous. Matthieu 19, 23, 25, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, etc. » Alors, on sait, certains soutiennent l'hypothèse, archéologiquement, qui demande à être démontrée, mais j'aime bien l'hypothèse, que le Christ n'employait pas une métaphore aussi orientale que de dire que le chameau est le trou d'une aiguille, mais qu'il y avait une porte très étroite à Jérusalem qui s'appelait le trou de l'aiguille parce qu'elle était très étroite, et dans lequel les chameaux de bas, grosses bêtes avec les bas énormes qui dépassaient des deux côtés, ne pouvaient pas entrer. Donc il fallait délester, il fallait déposer le chargement. Et que l'image, elle est là, dans l'idée du délestage. Bon. En tout cas, cette phrase de Jésus est une mise en cause du rôle de l'argent, non seulement dans nos comportements individuels, comme ça a été admirablement dit ce matin, mais en tant que structure de la société quand l'argent devient l'idole. Deuxièmement, le pouvoir de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, les structures économiques et financières que nous subissons, parce que c'est, paraît-il, la globalisation néolibérale, etc., depuis, mais pas longtemps du tout. Hein. Ça fait pas longtemps du tout qu'on prétend que c'est l'ordre des choses. Avant, le politique avait encore son mot à dire pour faire contrepoids. Depuis les années 90, il n'a plus son mot à dire. Pourquoi? Bon, c'est un autre débat, on va pas le tenir maintenant. Mais en tout cas, les structures économiques et financières, ce que le pape appelle l'idole argent, c'est la raison, des demandes réitérées, constantes du Saint-Siège, les discours du pape, les exhortations apostoliques, les encycliques, les interventions de justice et paix, par exemple le cardinal Turkson, pour la réforme du système financier mondial. Discours du cardinal Turkson qui a donné des aigreurs d'estomac au regrettable cardinal Pell, qui s'est empressé d'aller se plaindre de Turkson et du pape dans le Financial Times, ce qui n'était pas de très bon goût. Bien, parenthèse refermée. La parenthèse Pell est refermée d'ailleurs aussi. Bon. Alors, mais ça, bon, c'est bien de sa faute. Objectif, donc, libérer le monde, désencombrer, délester le monde de l'idole argent. C'était le deuxième point. Le troisième point, notre devoir, donc, aussi, nous, étudier la pensée socio-économique de l'Église, bizarrement inconnue, comme ça a été beaucoup dit cet après-midi, à très juste titre, merci à Joseph Touvenel et aux autres intervenants d'avoir insisté là-dessus, bizarrement inconnue de beaucoup de catholiques, à qui ont dit l'Église pense ça et ça, ils disent « Ah bon ?» Alors, ceux qui sont de bonne foi disent « Ah bon ?» et ceux qui sont de mauvaise foi, et hélas, on en connaît un certain nombre, et oui, mais ça ne veut pas tout à fait dire ça en réalité. Alors, ils essaient de retourner le truc à leur sauce pour nous expliquer. En fait, ça ne veut pas dire ça, mais tout à fait le contraire. Bon, c'est une façon de lire, mais ce n'est pas, peut-être pas la bonne. Notre responsabilité, c'est d'étudier la pensée de l'Église dans ces domaines, parce que si nous, catholiques, nous ne la connaissons pas, comment les non-catholiques la connaîtraient-ils? Tout à l'heure, j'ai posé la question, je connaissais déjà la réponse, pourquoi les médias catholiques n'ont pas plus parlé de l'intervention de catholiques sociaux pour comprendre les Gilets jaunes? Pourquoi notre appel pour un nouveau catholicisme social s'est-il heurté, il faut bien l'avouer, à une certaine hostilité de la part de certains milieux de notables vieillissants et bien installés, se voulant très sociaux par ailleurs, mais qui ont trouvé que ces gens qui débarquaient comme ça, qui voulaient faire des choses, c'était pas bien, surtout les Gilets jaunes, bah, c'est pas politiquement correct, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, comme ça a été très bien dit ce matin et cet après-midi, surtout cet après-midi, c'est le sociétal, c'est les nouvelles mœurs, c'est le social, les Gilets jaunes, c'est le social, et ce n'est pas ce dont on est obligé de parler, la seule chose dont on puisse parler, le sociétal, c'est-à-dire les mœurs, toutes ces questions dont les médias parlent jour et nuit, nuit et jour, et qui ont réussi à devenir l'agenda des députés. Le social, zappé, balayé sous le tapis. Bon. Alors, les éléments de réflexion, les voilà. Il faut savoir que, dès les premiers siècles, les pères de l'Église ont affronté le concret des problèmes d'argent et des problèmes de biens pour des mises en garde et des conseils pratiques. Le père Lafay, ce matin, nous a parlé de saint Ambroise. Je vous en dirai deux mots aussi. C'est très bien, ça permet de raccorder les diverses interventions. Mais il n'y a pas que. Ça, c'est donc les premiers siècles, les pères. Aujourd'hui, dans un contexte totalement différent, l'Église se penche sur les problèmes d'argent et d'économie pour des mises en garde et des préconisations positives précises, les analyses. Alors, hier, saint Ambroise, mais aussi saint Augustin, on va en dire deux mots. Pour eux, la question de la relation du chrétien à l'argent n'est pas seulement se poser la question de l'usage personnel, individuel, honnête de l'argent. Oui, cette question-là, mais pas seulement. Parce que c'est posé aussi la question du bien commun, qu'à l'époque, ils n'appellent pas encore bien commun, c'est une notion qui se dégage avec les grands scolastiques. Mais c'est ça qu'ils veulent dire, l'organisation générale de l'économie, le fonctionnement général de l'économie telle qu'elle est autour de nous. Est-ce que c'est une économie du bien commun? Ou est-ce que c'est une économie de l'argent comme idole? Et cette question, donc, on se la pose dans l'Église des premiers siècles. Tout de suite, les prédicateurs chrétiens de l'Antiquité s'intéressent à la vie économique en général, au-delà de la seule vie matérielle et financière des communautés chrétiennes. Troisième siècle, alors on ne perd pas de temps, hein, troisième siècle, l'assistance matérielle de l'Église, qui avant était limitée aux communautés chrétiennes, c'était l'assistance matérielle entre chrétiens, s'étend au IIIe siècle à tous ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et ça, c'est l'esprit de l'intervention. C'est déjà l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, qui est une plateforme commune, partagée, proposée à tous sur la base de la condition humaine que nous partageons. Donc, dès le IIIe siècle, la solidarité de communautés chrétiennes s'élargit en service du bien commun, aider l'humanité souffrante. Les pères ne s'en tiennent pas à de simples préceptes moraux. Il y a des gens qui voudraient que l'Église n'ait qu'une morale. Une foule de gens encore autour de nous en France qui sont persuadés que le catholicisme, ce n'est qu'une morale. Si vous leur dites que c'est autre chose, bon non, ben si. Bon. Et même l'Église nous demande avec instance de ne pas penser à autre chose. Quand Jean-Paul II dit « la doctrine sociale de l'Église fait partie de la théologie morale », et dans Christi Fidelis Laici, il ajoute « Christi Fidelis Laici hein, », il ajoute que le fidèle doit recevoir les messages, les nouveaux messages de la pensée sociale de l'Église, toujours en évolution, avec, dit-il, une docilité aimante. Enfin, docilité, ça ne veut pas dire « claquement de talons, garde à vous ». Non. Ça veut dire au moins être réceptif. Alors que nous connaissons tous des gens qui, devant les positions du pape François, que personne ne peut ignorer parce que lui, il ne parle pas le langage théologique, mais le langage de tout le monde, et ça fait du bruit, les gens qui disent « Ah non, ça, je ne peux pas l'accepter », dire que l'Église s'occupe du dogme. Ce n'est pas du dogme. Ah oui, pardon. Si on veut accepter de suivre l'Église que dans ce qui concerne le dogme, on est, excusez-moi le mot, on est hérétique. Oui, parce que le catholicisme s'adresse à la totalité de la vie, pas seulement au dogme, au kérigme, au noyau même de la foi. Donc, les pères de l'Église, 3e siècle, partent de ce que disent les évangiles. Marc 12, 28, 34, ou Matthieu 22, 34, 40, le plus grand commandement, indissolublement, amour de Dieu et amour du prochain. Or, aimer le prochain, c'est s'intéresser à son sort concret, à sa situation matérielle, donc la foi impactera forcément la vie économique. Et le Christ confirme cette idée en Matthieu 25, 31, 46, nourrir les affamés, accueillir les étrangers, etc. C'est là-dessus que vous serez jugés au dernier jour. Attendez, on ne sera pas jugés au dernier jour pour savoir si on a ou non trompé son conjoint. On sera jugés sur est-ce qu'on a nourri les affamés, accueilli l'étranger, visité les prisonniers. Alors, est-ce que certains vont accuser le Christ de vouloir ramener l'Église aux dimensions d'une ONG humanitaire? On a entendu ça aussi. Bon. Jésus place cette solidarité concrète au centre des futurs devoirs chrétiens, pour les siècles jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est, dit-il, une condition eschatologique, c'est-à-dire que notre salut éternel en dépend, parce que le juge avec un grand J s'identifiera aux pauvres et aux exclus. Alors ça conditionne, ça détermine le regard que nous sommes censés avoir sur le système économique à toutes les époques. Et ça montre que dès l'origine, le christianisme est autre chose que ce qu'était le polythéisme, le paganisme, un simple ensemble de rites. Dès l'origine, il s'applique à la totalité des activités humaines. Comme le Dieu des prophètes de l'Ancien Testament, il s'intéresse au sort concret des humains. Je vous rappelle, les grands prophètes, Dieu parle par leur bouche et dit « Vos sacrifices ne m'intéressent pas, la fumée de vos sacrifices m'est en abomination, si vous ne secourez pas la veuve indigente, etc. etc. » C'est déjà dans l'Ancien Testament. Alors, deux pères de l'Église donnent l'exemple d'une analyse. On est au tout début de l'analyse économique et sociale de l'Église. Une analyse des mécaniques financières, des situations concrètes. Ils entrent dans le détail, dans le concret. Alors, Ambroise de Milan, dont il était question ce matin, le père Lafay nous a dit qu'il parlait avec une rare vigueur. Eh bien, c'est vrai. Dans, par exemple, son livre « Le traité des devoirs », il s'en prend à la spéculation sur les grains. Alors, à notre époque, la spéculation sur les matières premières alimentaires... Ça a beaucoup d'actualité, hélas. Et il appelle ça un brigandage et une usure, un vol. Et il dénonce, et ça aussi ça fait penser à des choses aujourd'hui, les grands propriétaires terriens de son époque qui dissimulent la spéculation, le vol sur la faim des autres, qui dissimule la spéculation derrière les grandes phrases sur le rôle vital de l'agriculture. Comme si on empêchait l'agriculture d'être livrée aux spéculateurs, elle devait s'effondrer. Non, ça s'appelle un sophisme. Dans un autre livre, le De Tobia, Ambroise de Milan dénonce le système par lequel les usuriers prennent au piège les jeunes héritiers des grands domaines. Ça aussi, c'est très surprenant. Alors là, je cède la parole au grand spécialiste du christianisme antique, professeur à la Sorbonne, mon ami Jean-Marie Salamito, et il résume la colère de saint Ambroise ainsi. Les usuriers utilisent, pour s'informer sur les jeunes héritiers, afin de les spolier, les canaux de la sociabilité romaine, parce que tout ça se passe entre propriétaires fonciers, entre notables. Voilà. Ambroise s'en prend à toute une catégorie sociale de possédants. Un jeune homme dont la situation financière est saine, il le pousse en faisant semblant de lui conseiller un excellent placement, etc. Il le pousse à le emprunter pour s'acheter plus, d'autres terres, toujours plus. Alors commence pour lui la spirale de l'endettement, on en connaît quelques fois aujourd'hui, dont le résultat final sera pour l'inconscient le démantèlement de son patrimoine d'origine. C'est fâcheusement d'actualité. Et Ambroise met ici en lumière les mécanismes à la fois psychologiques, sociaux et économiques, la circulation des informations à travers les réseaux de relations, le cercle vicieux de l'endettement conduisant à des transferts de propriétés foncières massifs. La propriété, à l'époque, c'est la propriété foncière. Bon. Donc cet évêque s'intéresse aux structures de la propriété. Et ce livre est la réflexion, dit-il, d'un observateur des réalités socio-économiques, et c'est un avertissement aux victimes potentielles, c'est un ouvrage de conseil autant que de critique. Encore, saint Ambroise ne s'en tient pas à la morale. Il ne s'en tient pas à plaindre des victimes innocentes. Il dit, et ça c'est très actuel, et ça nous rappelle tout à fait ce que disait Joseph Touvenel par exemple tout à l'heure, le professeur de Cesare. Tous les deux, l'usurier et le débiteur, sont pécheurs. Tous les deux sont pécheurs. Parce que l'idole est une structure psychologique et économique. Et c'est ça. C'est une des significations du difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors Ambroise s'intéresse à la concentration foncière liée à l'endettement de certains propriétaires vis-à-vis d'autres. Il prend en compte des structures et tous ces évêques antiques, souligne Salamito, prennent en compte des relations entre les individus concrets, entre des groupes concrets, sans séparer l'économique du social. Et on est au IVe siècle. On n'a pas perdu de temps. Voilà pour saint Ambroise. Maintenant saint Augustin. Dans le commentaire du psaume 70, il exhorte les négociants à rejeter l'idée que les méthodes menteuses ou vicieuses, dit-il, nous on appellerait ça l'arnaque, soient la règle du jeu. Parce qu'il disait, oui, mais c'est la règle du jeu, si je ne le fais pas, les autres le font, et la concurrence, il faut que je reste concurrentiel. On ne le dit pas comme ça, mais aujourd'hui ça se dirait comme ça. Augustin dénonce, dit cette règle du jeu, il faut la renverser, elle n'est pas bonne. Il appelle les chrétiens à s'en libérer. Ça me rappelle ce que Soumantra Ghoshal, qui était le grand gourou économique de la London School of Economics, dénonçant à la fin des années 90 l'enseignement des écoles de commerce anglaises en disant « On enseigne aux futurs managers que l'arnaque est la règle du jeu. Arnaquer le concurrent, arnaquer le client et même arnaquer vos collaborateurs. » Et il disait « C'est l'enseignement du brigandage, comme dirait saint Ambroise. » Et Soumantra Ghoshal n'était pas un chrétien, comme son nom l'indique. Tout à fait hindou. Alors, dénoncer la règle du jeu, dénoncer les méthodes d'arnaque, Eh bien, c'est le contraire de ce que diront, beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, les pères du libéralisme. Donc le premier de tous, Mandeville, dont le célèbre Hayek, le grand pape de l'ultralibéralisme au XXe siècle, Hayek salué en Mandeville. Alors, à Mandeville, on est en 1708 ou 1710. Il saluait en lui le père de la pensée libérale en économie. Les vices privés font la prospérité publique. Ça, c'est l'axiome. Ah bon, ça, c'est exactement le contraire de ce qu'enseigne Saint-Augustin. Saint-Augustin s'en tient pas à ça. Il prône le durable, parce qu'il dit, on le disait tout à l'heure, investir dans le productif durable, c'est bien mieux que les charités éphémères en argent, qui sont tout de suite dépensées en aumône. En 410, Augustin et deux autres évêques de Tunisie demandent aux chrétiens riches, à l'époque il y avait une vague de sacrifices de la part des chrétiens riches, des grands propriétaires fonciers, qui voulaient appliquer le précepte de l'évangile, tout vendre, tout donner aux pauvres et se consacrer à Dieu. Et il leur disait, oui, c'est très bien, mais les monastères, parce que bon, le rôle économique dans la durée, à l'époque, c'était les monastères. Bon. Les monastères, ne leur donnez pas seulement du liquide qu'ils auront dépensé en aumône dans les trimestres qui suivront. Donnez-leur des locaux, donnez-leur des rentes foncières. Des locaux, des rentes foncières, le durable. Et alors, Augustin résume ça dans un autre livre, le recueil des commentaires sur Saint Jean. Cette phrase est très importante. Tu nourris les affamés, c'est bien. Ce qui serait mieux, c'est que personne ne soit affamé. Et ça, c'est un appel à réformer le système agricole de l'époque, qui à l'époque résumait à peu près toute l'économie. Ça, c'était les pères de l'Église. Maintenant, pour en finir avec ce que j'ai à vous dire, aujourd'hui, l'Église dans le concret, exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Je vous lis ça, parce que dans une exhortation apostolique, ça aurait surpris si nous tous, catholiques français, l'avions tous lu. Mais quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que ça n'est pas tout à fait le cas. Paragraphe 53 et suivant. Nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n'est pas possible qu'une personne âgée soit réduite à vivre dans la rue, qu'elle meure de froid, et que ce ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en est une et considérable. Voilà l'exclusion. Dans ce contexte, certains défendent encore. Paragraphe 54, là c'est vraiment une perle, parce que bon, on ne peut pas dire que ça pousse à apprécier les théories économiques d'Emmanuel Macron. Je ne fais pas de politique, hein, mais restons objectifs. Dans ce contexte, certains défendent encore les théories du ruissellement. Vous connaissez la théorie du ruissellement, le trickle-down, comme disent les Américains de l'école de Chicago, c'est-à-dire qu'il faut en enrichir les plus riches, retombera en pluie d'or sur les pauvres. Et voilà ce que le pape en dit. Ça suppose que chaque croissance économique favorisée par le libre marché réussirait à produire équité et inclusion sociale dans le monde. Cette opinion, qui n'a jamais été confirmée par les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Exhortation apostolique, hein, la joie de l'Évangile. Et dans les mécanismes sacralisés du système économique dominant. Bon. Une des causes de cette situation se trouve dans la relation que nous avons établie avec l'argent, puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur nous et sur nos sociétés. La crise financière nous fait oublier qu'elle a à son origine une crise anthropologique profonde, la négation du primat de l'être humain, comme disait Touvenel tout à l'heure. Nous avons créé de nouvelles idoles. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature d'une économie sans visage et sans but véritablement humain. Paragraphe 56. Alors que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité. Ce déséquilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Je vous disais tout à l'heure que le système introduit dans les années 90, qu'on nous présente comme étant l'ordre normal des choses, est en réalité une idéologie, on peut même dire une utopie, puisque dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il nie le droit de contrôle des États chargés de veiller à la préservation du bien commun. C'est une constante de la doctrine sociale de l'Église depuis Léon XIII, l'État doit faire contrepoids à l'économique et aux financiers. Dans ce système qui tente à tout phagocyter dans le but d'accroître les bénéfices, tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformé en règle absolue. Bon, ça, c'était la joie de l'Évangile, et ça annonçait l'encyclique sociale d'écologie intégrale, Laudato aussi, qui, elle, a fait un bruit mondial considérable. Je vous cite ceci qui concerne l'argent. C'est au chapitre 4, paragraphe 189. « La politique ne doit pas se soumettre à l'économie. Et celle-ci, l'économie, ne doit pas se soumettre aux diktats ni aux paradigmes d'efficacité de la technocratie. » Nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie, en dialogue, se mettent au service de la vie, spécialement de la vie humaine. Sauver les banques à tout prix, en faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision de revoir et de réformer le système dans son ensemble. Revoir et réformer le système dans son ensemble. Réaffirme une emprise absolue des finances qui n'a pas d'avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises. La prochaine, on l'attend, après une longue, coûteuse et apparente guérison. Très apparente. La crise financière de 2007-2008 aurait pu être une occasion de développer une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive, mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Laudato si. On lisait à peu près la même chose dans la presse économique, dans un numéro des Échos, dans un dossier des Échos du début du mois d'août. Mais ça ne venait pas du Vatican. Bon, donc voilà. Alors, réformer le système dans son ensemble. Et ça va être quasiment mon dernier point, non pas tout à fait mon dernier point quand même. Ça nous amène, je le mentionne juste au passage, à cette acquisition très importante de la théologie moderne qui s'appelle la notion de structure de péché. Structure de péché, ça veut dire que le péché des responsables, qui sont des personnes individuelles, mais cumulées pour constituer un certain système, lorsque ce système a atteint un certain volume critique, il devient plus fort, beaucoup plus fort que les personnes. Et finit par imposer cette fausse règle du jeu dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'un tas de gens vous disent « Oui, bien entendu, je suis à la tête de telle ou telle fausse très importante, mais la règle du jeu m'oblige, je suis obligé de la suivre. » Ça s'appelle... Alors, si ça amène ces gens à devoir prendre des décisions dont ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, qu'elles ne sont humainement pas du tout justes, et qu'elles sont même dangereuses, c'est un péché. C'est un péché vis-à-vis de la collectivité. Et poussé par la règle du jeu, ça veut dire poussé par la structure, et c'est donc une structure de péché. Donc le catholicisme, je le dis encore une fois, ne s'adresse pas seulement aux responsabilités personnelles, il s'étend aux structures d'ensemble, et il nous appelle à les modifier quand c'est nécessaire. Un exemple de ces structures de péché et du règne de l'argent qui se retourne contre l'humanité, ben cet exemple, vous l'avez dans, est-ce que je l'ai apporté ? Oui. Le journal du dimanche dernier, page 14-15, pénurie de médicaments, une bombe sanitaire. Deux pages entières dans le journal du dimanche, je vous donne les titres. L'histoire de fou de Stéphane atteint d'un cancer, qui ne peut plus se soigner, parce que pénurie de médicaments. La mondialisation au banc des accusés. Alors, voir ça dans la grande presse parisienne. Ah ! Et dont de l'eau a passé sous les ponts, mais quand les gilets jaunes le disent, on dit, ah, ils sont d'extrême droite. Bah oui, mais le journal du dimanche ne l'est pas. Et pourtant, ils le disent aussi. Le professeur Jean-Paul Vernant, professeur de médecine très important, il faut relocaliser la production en Europe. Ah, voilà le protectionnisme maintenant. Alors, le souverainisme, pourquoi pas pendant qu'on y est, etc. Et alors, le titre le plus surréaliste, aux États-Unis, les hôpitaux font cause commune. Alors, aux États-Unis, les hôpitaux et cause commune, pour faire quoi? Pour susciter des pôles de production de médicaments non. Non, excusez-moi, le mot m'échappe, pardon. Échappant à la logique du marché, quoi. Voilà. Ce qui, aux États-Unis, confine. C'est la fin du monde, quoi. Bon. Quelque chose qui ne soit pas rémunéré. C'est... Alors, la question est pourquoi cette pénurie? C'est là qu'on voit fonctionner la structure de péché. Alors, il y a eu un appel vigoureux des professeurs des hôpitaux et des médecins des hôpitaux la semaine dernière, qui a été lancé par Le Parisien et qui est repris par le journal du dimanche, disant que ça ne peut plus continuer comme ça, parce que cette pénurie est littéralement organisée. Et comment est-elle organisée? Les industriels tendent à privilégier la distribution dans les marchés qui offrent les prix les plus élevés. Ce qui n'est pas le cas de la France. On est trop bien remboursé. Donc ça tire les prix vers le bas. Ah! Et c'est pour ça qu'on ne trouve plus de médicaments. Mais, et pour des maladies gravissimes. Pour les maladies de cœur, pour les cancers, etc. C'est redoutable. Le cancer est obligé d'interrompre son traitement parce que le médicament, on ne le trouve plus en France. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de l'acheter sur Internet. Il va acheter une contrefaçon. Un médicament bidon, fabriqué on ne sait pas où. Donc, ce n'est pas le cas de la France. Et donc, la politique industrielle consiste à limiter, ou consiste aussi à limiter, voire à arrêter la production de médicaments indispensables, mais anciens, et dont le prix est donc trop faible. Alors, là, on voit fonctionner une structure qui se retourne directement contre la santé humaine, contre la santé publique. Alors, si ce n'est pas une structure de péché, je ne sais pas ce que c'est. Comment y remédier? Eh bien, l'appel des médecins et professeurs des hôpitaux de la semaine dernière le dit carrément, et là ça nous ramène littéralement à la demande de l'Église de changer le système global. Ils appellent alors à rapatrier en Europe la production des molécules actives, et ils demandent que soit créé en Europe un pôle public, donc à but non lucratif, voilà le mot que j'avais oublié. À but non lucratif. Un pôle public à but non lucratif de production pharmaceutique. Seule manière, disent-ils, c'est les médecins qui parlent, les médecins hospitaliers, seule manière de prévenir les pénuries et de garantir la qualité des médicaments, ainsi que des prix justes et durables. C'est un appel de médecins. Et en octobre dernier, d'autres médecins, des neurologues, et des associations de malades, à propos d'un seul médicament américain, mais qui avait été mis en panne par le laboratoire pour des raisons de marketing, demandaient exactement la même chose, constituer un pôle à but non lucratif. Alors, comme ils sont pleins de rêves et d'espoir, ils disent en Europe. Alors, malheureusement, ils ne savent pas que dans les statuts de l'Union européenne, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, et tant qu'on ne l'aura pas changée, mais je ne sais pas comment on peut la changer, le seul principe suivi, c'est la concurrence totale, pure et parfaite. Alors dans ces conditions-là, on ne peut pas rapatrier en Europe, on ne peut pas relocaliser et on ne peut pas créer un pôle public. Cet exemple, qui est vraiment un exemple limite, hein, là ça touche les gens dans leur santé, montre l'impact de l'idole argent. On pourrait en donner beaucoup d'autres exemples, on n'a pas le temps, on ne va pas le faire maintenant. C'est ce que le pape appelait dans son admirable discours de Santa Cruz en Bolivie, 2015, alors lisez-le tous, il est sur le site du Vatican, au discours de Santa Cruz aux communautés populaires, c'est extraordinaire. Il appelle ça la culture du déchet. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens, les relégués, ceux qui sont trop pauvres pour s'acheter un ordinateur, etc. Tous ceux qui sont voués, qui passent à la poubelle, qui passent à la trappe dans le monde futur. Et les joyeux jeunes gens, les élites, bon, je m'arrête parce que je vais encore faire de la politique, nous expliquent que c'est ça le progrès. Alors si c'est ça le progressisme, on aurait du mal à reconnaître le progressisme autrefois. Bon. Comme Benoît XVI et comme Jean-Paul II, François insiste sur notre responsabilité chrétienne face à cette situation. Avoir une action caritative personnelle, ça certainement, mais aussi conscience de la nécessité de changer l'esprit et les structures de l'activité économique. Car la doctrine sociale de l'Église, depuis le début, depuis Léon XIII, Rerum Novarum, la doctrine sociale de l'Église renvoie dos et dos socialisme d'État et capitalisme libéral et dit qu'il faut trouver une troisième voie sur d'autres principes mettant l'homme au service de l'économie et non pas l'économie au service de l'homme. Mettant l'économie au service de l'homme et non pas, oui, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, l'admirable phrase, je veux qu'on la grave en lettres d'or sur ma cheminée. Alors, il n'y a pas que le pape, il y a aussi l'évêque de Toulon-Fréjus. Et je vous cite, parce qu'on peut difficilement dire les choses de manière plus musclée, la postface qu'il a donnée au livret, très intéressant, que je vous recommande à tous, des actes du colloque tenu à Toulon, je crois que c'était en novembre 2015, qui s'intitulait en toute simplicité « La catastrophe écologique, fruit pourri du capitalisme ». Non, c'est pas Mélenchon. C'est le diocèse de Toulon-Fréjus. Et voilà ce qu'écrit Mgr Rey dans sa postface. Un lien intime existe entre les dérèglements écologiques, la déforestation, la destruction des écosystèmes, etc., et les désordres économiques, la précarisation des plus pauvres, la promotion d'une société de surproduction pour alimenter une surconsommation. Laudato si est aussi un texte qui renouvelle la doctrine sociale de l'Église, car elle se renouvelle. Certains disent « Ah oui, attendez, c'est pas exactement ce que disait Pie XII. » Non, parce que le propre, la doctrine sociale de l'Église, c'est que c'est la réaction de l'Église, à la lumière de l'Évangile, à des situations économiques toujours nouvelles. Évidemment, bien sûr. Sinon, où serait l'intérêt? Si c'est pour réagir à la situation en 1848, on est quand même en 2019. Voilà. Un peu plus loin, Mgr Rey écrit « Laudato si est une encyclique profondément enracinée dans l'Évangile. Elle rappelle à chaque homme la valeur de la création de Dieu. Elle invite à préparer, dans ce milieu divin, l'avènement du royaume de Jésus sur terre. » Alors je vous rappelle la phrase très importante de François, citant Jean-Paul II dans « Laudato si », quand il dit « L'écologie intégrale, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bien de tous les êtres créés, évidemment, l'homme au centre, bien sûr, Dieu l'a rendu gérant de sa création. L'écologie intégrale n'est pas une notion superflue, car beaucoup ont dit « Ah, mais qu'est-ce que ça vient faire en plus ? On a déjà bien assez de problèmes, on a l'islam, on a l'avortement. » Oui, certes. Mais, Jean-Paul II et François, l'écologie intégrale jaillit de notre rencontre personnelle de Jésus-Christ. Notre rencontre à chacun. Ah. Il y a, alors vraiment là, tout est lié. En montrant les liens organiques qui entremêlent la destruction des écosystèmes, la tentation transhumaniste, l'homme augmenté, les injustices socio-économiques de la répartition des richesses, le consumérisme égoïste et mercantile d'une économie capitaliste à bout de souffle. C'est Mgr Rey qui vous dit que l'économie capitaliste est à bout de souffle. L'idolâtrie de la technologie ou le profit comme valeur ultime et la dictature du relativisme, cher à Benoît XVI, car c'est aussi, le relativisme est aussi un produit du système. Le pape François prouve que ces crises, qui nous paraissent si nombreuses et si graves, n'en sont qu'une seule. Désormais, on ne peut plus dénoncer le mal de l'avortement si l'on défend par ailleurs la société de surconsommation. On ne peut plus appeler à l'accueil légitime les étrangers persécutés et méconnaître que l'euthanasie est le fruit d'une société qui n'aime pas ni ne protège ses fragiles aînés. On ne peut plus demander une meilleure répartition des richesses en faveur des déshérités et favoriser les industries polluantes au motif de promouvoir le développement économique à tout prix. Alors, bon, on ne peut pas dire mieux que lui, donc je m'arrête là et je passe de l'autre côté de la table, parce que maintenant, c'est vous qui parlez. C'est à vous de produire des idées.